l'invité du dimanche,
en partenariat avec Midi Libre,
sur 48FM,
9h30 et 18h30.
Je m'appelle Patrick Sacleux, je suis professeur d'anglais au lycée Notre-Dame à Mende, et je suis doctorant chercheur avec l'université Paul Valéry Montpellier 3.
Pour 48FM, Ludovic Terrol, et pour Midi Libre, Fabien Isbach.
Vous êtes professeur donc d'anglais. Comment vous êtes-vous intéressé au patois lozérien? Comment c'est venu?
Lorsque j'ai longtemps habité aux États-Unis et quand j'ai repris mes études, j'ai fait un master avec une université américaine de sociologie et j'ai fait un début de recherche, une recherche exploratoire autour de la canourgue. Où je m'intéressais au sentiment identitaire par rapport à l'utilisation des patois lozériens. Et petit à petit, j'ai découvert en m'inscrivant en doctorat la sociolinguistique. Et à partir de là, j'ai commencé à définir mon projet de thèse un petit peu plus proche. Mais tout simplement, je me suis rendu compte, il y a 8 ans de ça, au mariage de ma sœur, lorsque j'étais en Bretagne, qu'au moment de chanter les chansons du mariage, et ben en fait, nous, cette petite poignée de Parisiens, on connaissait absolument pas les chansons bretonnes. Et je me suis dit, mais ce nombrilisme parisien, il est tel qu'on est complètement séparés des régions et qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et il faut s'intéresser beaucoup plus aux régions parce que ça fait partie de notre patrimoine, le patrimoine régional. C'est tout aussi important que le patrimoine national. À un certain moment où on parlait d'identité nationale, il existe des identités régionales. Et ensuite, moi, je reste persuadé qu'il existe aussi des identités locales, tout comme il existe des identités personnelles, des identités collectives. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent lozérien? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent sévenol? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent auvergnat? Les Basques disent, par exemple, qu'on n'est pas basque si on ne parle pas le basque. C'est pas tout à fait la même chose en Lozère. Pourquoi? Voilà.
Alors, vous partez pas dans la facilité, vu qu'il y a plusieurs patois lozériens. On sait que sur le nord Lozère, il se rapproche du patois auvergnat. Il y a le patois sévenol.
Oui, de toute façon, je crois que j'ai jamais choisi les solutions de facilité. Quand on a 45 ans et qu'on commence un doctorat, c'est qu'on est motivé, ou alors c'est qu'on a que ça à faire, et moi c'est pas le cas. Et j'ai pu recenser en lisant un lexique de grammaire lozérienne qu'a priori il existait peut-être 7 ou 8 patois différents. Je pense qu'il en existe certainement beaucoup plus. Mais si je voulais une solution de facilité, je crois que je me serais tout simplement plongé dans les bouquins. Et j'aurais fait une recherche quantitative plutôt que de faire une recherche qualitative comme je suis en train de le faire, à essayer de développer peut-être des différents concepts ou différentes théories. Tout ça est basé sur une théorie principale qui s'appelle l'interaction symbolique, qu'on peut tout simplement résumer comme étant la convivialité. Est-ce que la convivialité ou le manque de convivialité n'a aussi pas influencé nos compétences linguistiques en patois? Nos échanges linguistiques en français par rapport au patois, il y a de moins en moins de gens qui vont au café, il y a de moins en moins de gens qui se réunissent entre eux. Par contre, il y a plus en plus de gens qui se réunissent sur Facebook, il y a de plus en plus de gens qui se réunissent sur Internet, mais c'est des gens qui sont isolés chez eux. Cette interaction, ou ce manque d'interaction, je pense que ça influe beaucoup sur nos compétences linguistiques, quelles qu'elles soient. Et je crois qu'aussi en France, on a eu une politique monolingue depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il y a presque 500 ans de ça. Je crois qu'il faut arrêter de nous considérer comme un État monolingue. Il faut revendiquer le multilinguisme et parfois dans certaines régions, le bilinguisme. Il faut commencer à le revendiquer. Mais il faut le revendiquer pas pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de patrimoine culturel. Ça, c'est en tant que chercheur, je devrais peut-être pas prendre parti, je devrais pas prendre position. Je prends cette position en tant que citoyen, qu'être humain. Et je pense qu'on a tous des intérêts culturels qui sont différents, mais qui sont tous à être beaucoup plus valorisés qu'ils ne le sont.
Est-ce qu'on sait combien de Lozériens parlent patois actuellement ?
Non. Non. Il y a une étude qui a été faite par la région Languedoc-Roussillon il y a à peu près une vingtaine d'années de ça. Le résultat de cette étude, c'est qu'il y a un peu moins de 1000 personnes en Lozère qui avaient répondu à ce questionnaire. Mon questionnaire que j'essaye de faire diffuser est un petit peu différent parce que j'essaye de relier les compétences linguistiques en patois avec le sentiment identitaire. Donc il y a aussi absolument pas d'agenda politique derrière ça. Je pense qu'il y avait certainement un agenda plus ou moins caché qui était politique derrière cette enquête qui était sur l'expression occitane en Languedoc-Roussillon à l'époque, mais non, on ne sait pas. Malheureusement, il y a peu de gens qui s'y intéressent, et il y a personne qui fait, à l'heure actuelle, que je sache, ce genre d'enquête précisément en Lozère. Quand j'ai exprimé le souhait à l'université Paul Valéry de faire cette enquête, on a été intéressé parce que ça reste du domaine de la sociolinguistique occitane. Cette université est la mieux placée actuellement et depuis longtemps pour faire des recherches de sociolinguistique occitane, donc ça les intéresse. C'est le département le moins peuplé de France. C'est un département où la ruralité et l'isolement sont le lot quotidien de beaucoup de gens. Moi, j'habite en Lozère depuis 3 ans. Je le vis au quotidien depuis 3 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Il faut habiter en Lozère pour le comprendre.
Oui, on va revenir sur votre thèse pour expliquer justement ce questionnaire, parce qu'on n'en a pas parlé auparavant. Donc, vous mettez en place un questionnaire en direction du grand public, c'est ça ?
C'est ça, c'est en direction du grand public. C'est les résidents lozériens. Alors, qu'ils soient nés en Lozère ou pas, c'est pas grave. Moi, qu'ils aient une résidence principale ou une résidence secondaire, c'est pas gênant non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les réponses des résidents lozériens. Et toutes les réponses, c'est-à-dire qu'on parle patois ou non, c'est pas gênant. Qu'on s'y intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Je pense que tous ces gens-là ont des réponses qui, au niveau sociolinguistique et sociologique, qui vont être intéressantes, parce que dès l'instant où on s'intéresse à ça, on s'intéresse à une certaine forme de patrimoine culturel. Et j'ai développé un questionnaire d'une cinquantaine de questions, donc c'est assez, ça représente un petit peu de temps à remplir. Et je pense que justement, les gens qui s'y intéressent vont prendre le temps de le remplir, vont prendre le temps de le renvoyer. Je fais ça avec les moyens du bord. En tant que chercheur, j'ai pas forcément des grands moyens à hauteur des moyens qu'on pourrait avoir si je faisais ça par le biais du conseil général ou du conseil régional. Mais justement, je pense que c'est aussi cette recherche et la manière de récolter les questionnaires va faire partie de la rédaction de ma thèse.
D'accord. Concrètement, ces questions, ce n'est pas simplement pour savoir est-ce que vous parlez patois ou pas. Ça veut vous amener où ? Quel type de questions on va pouvoir retrouver ?
On va pouvoir retrouver des questions sur la sociologie des gens, sur la géographie des gens, par rapport à leur résidence en Lozère, sur peut-être leur capacité à parler patois ou à comprendre le patois. Quelle a été la transmission familiale du patois, s'il y en a eu une ? Quel est leur sentiment sur la santé du patois actuellement ? Est-ce qu'ils pensent qu'il est voué à disparaître, comme beaucoup de gens le pensent ? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a un moyen de le faire survivre ? Comment est-ce qu'on peut le faire survivre ? Donc c'est essayer d'avoir aussi des suggestions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut le mettre en place à l'école comme on a mis en place l'occitan ? L'occitan, c'est la version académique. Le patois, je dirais, c'est la version familiale. Encore une fois, pour moi, c'est une langue patrimoniale. Quel est le sentiment identitaire qu'on puisse avoir ? Encore une fois, en Lozère, au nord, il y a ce sentiment un petit peu auvergnat. À l'est, il y a le sentiment un petit peu cévenol, qui est complètement différent. Si on est cévenol, on peut être cévenol à part entière sans forcément se revendiquer comme étant cévenol, gardois, lozérien ou ardéchois. Si on est dans la partie sud de la Lozère, on peut avoir une mentalité méridionale. Est-ce que scinder toutes ces mentalités va définir une identité lozérienne commune ou non? Est-ce que cette identité lozérienne, est-ce qu'elle peut se définir comme une identité occitane ou non? Donc c'est à ce genre de questions que j'essaie de répondre. Et tout ça, ça a été mis sous forme d'un questionnaire qui est assez complet, je pense. Et plus j'aurai de réponses, plus j'aurai de travail, mais aussi plus ce sera intéressant de voir le résultat de ces réponses.
Vous envisagez également d'enregistrer les Lozériens dans un second temps. Expliquez-nous un petit peu cette démarche-là.
Oui, alors j'envisage, ça c'est très certainement pour l'année prochaine, c'est d'aller sur le terrain aux quatre coins de la Lozère. Pour le moment, j'ai essayé de diviser, alors je ne sais pas si je vais garder ça ou non, la Lozère en cinq zones que j'ai appelées des zones géolinguistiques, l'Aubrac, la Margeride, les Causses, les Cévennes et la vallée du Lot, pour enregistrer, pour poser des questions, interviewer les gens que ça intéresserait, pour aussi enregistrer les gens à leur insu, pas enregistrer des secrets, mais tout simplement enregistrer des conversations, qu'ils soient en français ou en patois, lors d'échanges, justement d'interactions symboliques, et de voir comment on peut analyser ces échanges. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses à travers les livres, mais les recherches de terrain nous disent beaucoup plus de choses. Voilà.
Vous parlez beaucoup de l'occitan. Quelle interaction il y a exactement entre l'occitan et le patois? Est-ce que finalement l'occitan, qui connaît un regain d'intérêt parfois, ne nuit pas au patois?
Alors je sais pas s'il peut nuire au patois, mais je pense que ce regain d'intérêt, moi je le vois avec certains élèves avec qui je parle qui prennent des cours d'occitan. Ils me disent oui, l'occitan c'est bien, mais c'est pas la même chose que les mots qu'on a pu entendre de nos parents ou de nos grands-parents. Donc l'occitan, ça leur apprend la version académique, ça leur apprend peut-être à l'écrire, ça leur apprend à le lire, ça va peut-être leur permettre de faire des échanges sur différents blogs ou différents sites internet qui existent d'expression occitane, mais c'est pas la même chose. Et je pense que l'occitan, ou en tout cas les professeurs d'occitan, ont peut-être aussi tendance à stigmatiser le patois en disant bah c'est pas du vrai occitan. Mais je pense que tous ces patois ont servi il y a très très longtemps à former l'occitan. Et là où il y a eu par rapport à ce que j'ai pu lire ou observer dans mes lectures, c'est qu'avec le mouvement du Félibrige, il y a eu une revendication de l'occitan. Il y a eu aussi une tentative de formalisation de l'occitan, qui est de ce qu'on appelle la normativisation de l'occitan, qui a sans doute contribué à une certaine époque à se casser le nez. Parce qu'il y a eu tout un tas d'universitaires, d'académiciens d'occitan qui ont essayé de réunir tout ça, et ils se sont cassé le nez en disant bah, « ma version à moi, elle est mieux que la tienne, ma version à moi, elle est mieux que la tienne », sans se soucier véritablement des patois qui existaient sur un territoire qui, quand même, à une certaine époque, représentait 40% de la France. Et c'est peut-être ce qui a servi à la survie de l'occitan, mais c'est peut-être aussi ce qui a contribué à stigmatiser le patois, en plus de la stigmatisation qu'il y a eu au moment de l'enseignement obligatoire du français à l'école, de l'interdiction à une certaine époque de parler le patois. Je crois que le patois, il a servi à certaines causes politiques ou religieuses, et par rapport à d'autres causes, il a été stigmatisé. Donc on l'a utilisé quand ça a arrangé les gens, on l'a mis de côté quand ça a aussi arrangé les gens, mais au bout du compte, on a tellement dit aux gens que c'était une sous-langue, que c'était synonyme d'un sentiment négatif, qu'on l'a complètement dévalorisé, et je pense que malgré tout, ça existe encore. Il faut essayer de revaloriser ça. Et plus on parle de langue, mieux on se porte.
Vous parlez français et anglais couramment. Est-ce que vous parlez un peu de patois?
Non, malheureusement, je ne parle pas de patois, je parle un petit peu espagnol. J'ai appris à mes enfants à être bilingues français-anglais. Et justement, lorsque j'enseigne l'anglais, je dis toujours qu'apprendre une langue étrangère, c'est renforcer les connaissances de sa langue maternelle. Et malheureusement, ça s'avère de plus en plus vrai. Mais malheureusement, au fur et à mesure de la disparition des différents dialectes régionaux qu'il y a un petit peu, ou des dialectes patrimoniaux qu'il y a dans le monde, on se rend compte que plus on oublie nos langues maternelles, plus on laisse une partie de nous-mêmes de côté. Et l'avantage de ne pas parler patois, c'est que ça ne va pas me mettre en position dominante lorsque je vais interroger les gens, lorsque je vais recevoir ces questionnaires, parce qu'il y a aussi cette histoire de ce qu'on appelle la diglossie, la position de la langue dominante face à la langue dominée. Moi, je ne me considère pas comme étant dominant. Et au contraire, je voudrais que les gens qui parlent le patois, qui aiment le patois, qui revendiquent le patois, se considèrent eux comme position dominante par rapport à leurs connaissances et qui ne se considèrent plus comme étant dominés par rapport aux Français.
On finit toujours cette rubrique en demandant à notre invité de vider ses poches pour mieux le connaître. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos poches aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'ai dans mes poches aujourd'hui? Une musique qui me tient à cœur, qui me fait presque frissonner à chaque fois que je l'écoute. C'est en anglais. Bon, ça fait partie d'un monde dans lequel j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Et c'est la chanson tout simplement Free de Stevie Wonder. Je pense qu'on est tous libres de s'exprimer et c'est justement quelque chose qui est très représentatif de ce que j'essaye de faire.
Très bien, merci beaucoup.
Merci. Merci.